Donc, je vais vous présenter notre programme de gestion d'un espace naturel sensible donc, qui est situé sur le site de la vallée de l'Aude Blanche, donc au sud de l'agglomération. C'est un site qui était déjà classé site Natura 2000 dans le cadre du bocage Cadojac-Saint-Médard-d'Hérens, donc dans le sud du département, et en fait on est la pointe nord de ce site Natura 2000. C'était un espace qui était également déjà classé en ZNIEF, donc zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2. Donc on peut déjà se demander pourquoi vouloir avoir un classement supplémentaire. On fait ce classement de zone de préemption des espaces naturels sensibles, il avait un double intérêt. Le premier intérêt, c'était de pouvoir avoir le droit de préemption sur les terrains, puisque pour agir, le mieux c'est d'être propriétaire. Et le deuxième, c'était que c'était un classement qui permettait, puisque c'est un peu le nerf de la guerre en recherche, mais c'est aussi le nerf de la guerre en action publique, de toucher des finances, puisque jusqu'à l'année dernière, dans le cadre des ZPNS, on avait une taxe dédiée aux espaces naturels sensibles gérée par le département. Et cette TDNS a été transformée en taxe d'aménagement, donc payée avec votre taxe foncière et vos taxes d'habitation, et qui permet de financer un certain nombre d'actions, que ce soit en termes d'achat de propriété, mais également en termes de gestion à proprement parler. L'exposé que je vais vous faire, il va être divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est de vous rappeler un peu l'historique de cette démarche, vous présenter un petit peu le site, sa situation, ses différents biotopes. Ensuite, expliquer le plan de gestion qu'on a mis en place, pour terminer par quelques actions en termes de gestion de plantes invasives. Donc, pour commencer, l'historique. Donc, effectivement, il y avait un classement Natura 2000 et un classement ZNIEF de type 2. Malgré cette reconnaissance en termes d'intérêt, en termes de biodiversité, il a fallu, après rencontre avec les services du département qui ont la compétence, ça c'est important, la compétence ENS, il a fallu en 2005 refaire des études pour montrer l'intérêt écologique du site pour le classement. Donc on s'est rapproché du Conservatoire botanique national et de la Ligue de protection des oiseaux. Une fois que cet intérêt écologique a été montré et qu'on avait l'accord du Conseil général, il était important pour nous, communes, d'essayer de récupérer ce droit de préemption, puisque à côté du site qu'il y a chez nous, ENS Villeneuve-d'Ornon, il y a l'ENS de Cadojac, et on voit la différence d'avancée en termes d'action entre les deux. Non pas que le Conseil général ne soit pas motivé par les actions de protection de la biodiversité, mais je pense qu'en termes de moyens humains, ils sont plus en réaction qu'en action, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément démarcher les gens pour leur montrer l'intérêt qu'ont leur parcelle pour les préempter. Donc ils attendent que les gens sont vendeurs pour acheter, donc ça prend énormément de temps. Nous, on a voulu être beaucoup plus actifs, proactifs, et donc on a voulu avoir ce droit de préemption pour arriver vers les propriétaires pour pouvoir avoir la chance de racheter leur parcelle. Donc, en 2006, il y a une délibération du département qui nous a donc transmis ce droit de préemption à la commune. En 2007, puisque c'est un territoire qu'on ne connaissait pas en termes de biodiversité, on revient un petit peu aux bases de données qui pourraient exister, etc., la collectivité a décidé de faire appel à un bureau d'études, ici le cabinet Gérea, pour faire un diagnostic du site. Diagnostic en termes de richesse pardon, faunistique et floristique. Et cette phase diagnostique avec les allers-retours, etc., a pris pratiquement 3 ans pour aboutir à un plan de gestion sur la durée 2011-2015. Donc ici, vous avez une photo aérienne du territoire de la commune de Villeneuve-d'Ornon, donc délimitée par les... je sais pas si on a... Les limites jaunes sont les limites du territoire. La limite rouge, c'est les limites du zonage ZPNS. Donc on le voit bien au sud de l'agglomération, en bordure de Garonne. Ici, vous avez une vue agrandie un petit peu sur la diversité des biotopes qui existent, avec notamment une zone surtout à intérêt écologique à l'ouest de cette départementale, avec notamment de très jolies prairies bocagères et des milieux beaucoup plus boisés et gravières, ici donc le long de l'eau blanche, et une zone beaucoup plus dégradée, avec ici un ferrailleur, ici une entreprise de granulat et quelques parcelles de viticulture. Donc, le diagnostic réalisé par Géré a permis de définir, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais un certain nombre de biotopes, et surtout nous a permis aussi de hiérarchiser les priorités d'intervention de la commune en termes de sauvegarde, entre guillemets, hein, de la biodiversité, puisque les zones les plus en danger étaient ces zones de prairies bocagères qui, puisqu'il n'y avait plus d'élevage sur place, avaient tendance à se refermer, donc par développement des ronces des haies, mais également par rejet de frênes et de saules qui rendaient les prairies totalement fermées. Donc c'était vraiment la priorité donnée par le cabinet Géré dans le cadre du plan de gestion, c'était d'acquérir ces prairies pour pouvoir y intervenir et de les rouvrir pour que ce soit de nouveau de jolies prairies bocagères, sachant que derrière il y avait une richesse floristique, notamment des orchidées, des fritières, qui pouvaient s'épanouir dans ce type de site. Donc la priorité pour nous, ça a été effectivement, et on le voit ici sur cette photo donc, ou ce graphe d'acquisition, aujourd'hui on est propriétaire pratiquement de toutes les prairies, un propriétaire encore un peu réticent à nous céder ces prairies, mais qui aujourd'hui ne sont plus vraiment des prairies, mais des petits bois hein, de frênes ou de saules. Et ici, on commence depuis l'année dernière à acquérir ces parties un peu plus boisées, et ces parties le long de l'eau blanche. Ici, c'était vraiment aussi maintenant une priorité, puisque l'objectif, c'est, pour toute ENS, c'est de l'ouvrir au public. L'objectif, ce n'est pas d'en faire un sanctuaire, mais plutôt une école de la vie pour les enfants de nos écoles, pour leur apprendre l'intérêt de la biodiversité et de montrer la richesse qu'il y a sur leur territoire. Donc voilà pour les acquisitions. Ça paraît facile comme ça acquérir, mais ça demande beaucoup de travail de persuasion, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, au prix des domaines, le mètre carré de nature, c'est 3 euros du mètre carré. Ces propriétaires, s'ils le vendaient en zone urbaine ou en zone constructible, c'est entre 300 et 400 euros. Alors même si c'est classé en zone humide ou en zone du PPRI, en rouge en termes de risque d'inondation, ils ont toujours l'espoir, puisque ça s'est passé dans d'autres endroits, que ces zones deviennent constructibles. Donc effectivement, les convaincre de vendre à 3 euros, même si nous on est persuadé que ça ne sera jamais constructible, c'est très très compliqué. Donc il a fallu en persuader un premier, agir sur cette parcelle pour montrer qu'on n'achetait pas que pour le plaisir d'acheter. Et ça a permis de faire un petit peu effet boule de neige et de convaincre au fur et à mesure différents types de partenaires. Le plan de gestion qui a été mis en place, donc il s'inscrit bien sûr, ça c'est du politiquement correct, hein, dans la démarche de développement durable de la commune, hein, sur les trois piliers, environnemental, social, économique. Alors environnemental, en termes de protection de la biodiversité et de remise en état de cette zone humide. Social, parce qu'on fait beaucoup de travail des chantiers d'insertion. On forme des jeunes à des nouveaux métiers de protection de la nature, etc. Économique aussi, puisqu'on a aujourd'hui, et ça c'est plus général à la communauté urbaine, un projet de réinstallation d'un éleveur sur le territoire de la communauté urbaine. Donc, et en y ajoutant deux volets qui sont les volets les plus importants, c'est la concertation et bien sûr la sensibilisation du public. Donc le premier thème donc, de ce plan de gestion, c'est bien sûr d'aboutir à la maîtrise foncière totale de ce site. Vous voyez, aujourd'hui, on est à peu près propriétaire de 45% des 78 hectares que représente ce site. De préserver et de gérer des éléments de qualité qui assurent la diversité écologique du site. De restaurer les secteurs dégradés, de surveiller et préserver la ressource en eau et d'assurer et de gérer l'accès du site au public. Deux de ces points vont concerner, on fait la gestion des espèces invasives, c'est de préserver et gérer les éléments de qualité et de surveiller et de préserver la ressource en eau, puisqu'un certain nombre d'espèces invasives ont un impact, notamment sur la stabilité des berges de l'eau blanche ou de la Garonne, et donc accroissent le risque d'inondation. Donc un espace naturel qui est très riche, donc juste quelques photos qui ne sont pas une liste exhaustive, mais on voit ici en termes floristiques, notamment la présence d'orchidées ou de fritières, mais également en termes faunistiques, puisque vous avez présence de cistudes, en tout cas lors de la phase diagnostique, on verra que lors d'une étude supplémentaire, on n'en a pas forcément revu. Également, une photo, et cette photo a été prise sur le site, la présence de Visant d'Europe, etc., etc. Mais en contrepartie de cette richesse faunistique et floristique, on a également quelques espèces invasives, écrevisse de Louisiane, Agandin, tortue de Floride, érable Negundo, Jussi. Et alors là, en prendre avec précaution, il y aurait eu présence de traces de ratons laveurs depuis cette année. Voilà. Donc en termes de gestion, comment une collectivité comme la nôtre peut gérer ces espaces invasifs avec les connaissances qui existent? Alors le préalable, c'est ce que je vous disais, hein, pour pouvoir agir, il faut être propriétaire des terrains ou alors avoir l'autorisation des propriétaires, mais comme c'est souvent de l'argent public, entretenir un terrain privé avec de l'argent public, c'est compliqué vis-à-vis de nos citoyens, ou alors avoir à sa disposition des outils législatifs qui permettent d'agir. Le deuxième, c'est d'avoir à disposition un moyen de lutte efficace, et on l'a vu aujourd'hui, notamment avec Denis Thierry sur le frelon asiatique. On n'a pas toujours, en tout cas la recherche ne nous fournit pas toujours, des moyens de lutte efficaces. Et on le verra avec les exemples que je vais développer. Et troisième, le nerf de la guerre, c'est obtenir les financements. Et j'ai oublié de citer d'ailleurs sur la première diapo que j'avais, les partenaires financiers qui étaient l'agence de l'eau à Dour-Garonne, notamment parce qu'on a été lauréat d'un concours sur la protection des zones humides, le conseil général, puisque c'était un peu sa compétence, et la communauté urbaine de Bordeaux, qui a aujourd'hui une politique nature qui est quand même très développée, puisque je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet qui était l'équivalent ou le pendant des 50 000 logements, de maintenir 55 000 hectares de nature sur le territoire communautaire. Donc, je vais vous développer trois cas d'espèces invasives sur lesquelles on a déjà essayé. Mais ça va aller très vite, cela, je vous promets. Le cas de l'érable Negundo, donc, qui agit un petit peu sur la stabilité des berges de l'eau blanche, également présent dans les parties boisées autour des gravières, mais là, on n'est pas propriétaire, donc vous ne pouvez pas agir. Donc, il a fallu trouver un moyen législatif pour agir, puisqu'on n'était pas propriétaire des terrains, et on a en accord et en collaboration avec la communauté de communes de Montesquieu, qui avait la compétence bassin versant, on a monté une DIG, une déclaration d'intérêt général de l'eau blanche, donc avec un certain nombre d'actions que j'ai listées, mais deux qui permettaient d'agir directement sur l'érable Negundo, qui était la restauration douce des lits des berges et la restauration de la végétation riveraine, donc, où on a pu arracher les érables. Il y avait également quelques robiniers foacacia pour renforcer la stabilité des berges, avec bien sûr exportation obligatoire de la matière. On le fait de manière écologique avec arrachage et débardage à cheval. Le cas du Ragondin, on a passé une délibération avec l'association départementale des piégeurs agréés de Gironde, donc pour mettre en place des pièges répartis pas que sur le NES, mais sur tout le territoire de la commune, en tout cas dans les zones humides, puisque c'est une des problématiques de ce type de ravageur, c'est que notre collectivité va agir par piégeage, mais si la commune riveraine, Cadojac ou Bègle ne font pas la même chose, effectivement, on aura du mal à faire diminuer la population. Donc là, vous avez le type de dégâts que peut causer ce type d'animal sur les berges et notamment aussi sur les digues de la Garonne, donc là, avec un risque accru en termes d'inondation pour la population. Donc les modalités, c'est qu'on paye la cotisation des piégeurs sur notre commune, c'est 16 euros par piégeur par an, et on verse 3 euros aux piégeurs pour chaque animal capturé. Un type de piège. Le dernier cas, c'était le cas de la tortue de Floride. Donc, on a lancé en 2013 une étude donc, sur la cystite d'Europe et donc la trachymie de la tortue de Floride, qui a été réalisée avec l'association Cystite Nature. Donc, avec un objectif, c'était de déterminer le niveau de la population de cystite sur le site, mais également le niveau de la population de tortues de Floride en vue d'une régulation de cette population, puisque les deux sont en concurrence. On a essayé d'estimer la population de cystite par piégeage en nacelle, résultat, on n'a piégé que des écrevisses. Ça tant qu'on n'a pas voulu toucher au site le plus propice à la cystite, qui était une partie en roseau, puisque c'était en pleine période de nidification des oiseaux et qu'on n'a pas voulu les déranger. L'estimation visuelle et tentative de piégeage de la trachémie, donc par piège flottant, ces pièges avec des ports mouvants. En fait, la tortue de Floride a tendance à aimer aller se faire bronzer sur des troncs d'arbres qui flottent, des choses comme ça. Donc ce type de piège a été dessiné pour imiter ce type de support, mais le bord est mouvant, c'est-à-dire que quand elle prend appui, elle tombe à l'intérieur du piège. Résultat, on a piégé aucun animal. Par contre, visuellement, on en a cartographié une dizaine sur le site. Donc, elle est bien là. Le problème, c'est effectivement le piégeage. Donc là, pareil, on n'a pas de méthode de lutte aujourd'hui. Le seul moyen de lutte qu'on aurait, c'est le tir au fusil, mais c'est compliqué d'un point de vue administratif. Non, mais ça se fait, hein. Mais il faut une autorisation préfectorale, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez long. Voilà la cartographie, donc la présence de population de tortues sur... on voit rien du tout. Donc, il y a deux points sur l'eau blanche et en fait une gravière qui est pas mal infectée. La cartographie du site où on pourrait retrouver par contre de la cistude, donc un site de pente en jaune qui est la partie en roseau et donc les zones humides de forêt qui pourraient être des sites d'hivernage. Et bon, là, les autres espèces, on a l'écrevisse de Louisiane, on fait un peu de pêche, et notamment on demande aux pêcheurs de mettre de temps en temps des nacelles, mais la population est vraiment très bien installée et je pense qu'on n'arrivera plus à la supprimer. La jussie, c'est pas encore vraiment un problème. On est propriétaire d'une gravière sur laquelle on a fait de l'arrachage, mais voilà, c'est pas aujourd'hui une problématique majeure sur notre site, même si elle est présente. Le raton laveur a vérifié effectivement s'il est bien présent, quel impact il pourrait avoir sur le milieu, notamment en termes de concurrence avec le wison. Juste pour conclure, donc on arrive au bout du premier plan de gestion, on va devoir en redémarrer un nouveau. Il faut savoir que toutes ces actions qu'on mène en termes de gestion, on a un suivi par des bureaux d'études spécialisés en termes de suivi faunistique et floristique pour voir l'impact de notre gestion. L'investissement, parce que ça c'est quand même aussi un peu le nerf de la guerre, il faut savoir qu'aujourd'hui en termes d'acquisition, on est à un peu plus d'1 million d'euros d'acquisition. Et en termes de gestion, depuis 2011, on dépense environ 130 000 euros hors taxes par an, c'est une moyenne, en termes de gestion de ce milieu. Ça ne compte pas que gestion espèce invasive, c'est gestion dans sa globalité. Et voilà la réflexion qui est engagée sur le vote du public. Et vous avez quelques petites photos sur l'entretien pastoral qu'on a mis en place, sur une partie de prairie qui était fermée par les frênes qu'on a coupées, et sur une transhumance, puisque c'est une des actions qu'on a mis en place pour sensibiliser le public à ces questions. Voilà.
Merci beaucoup.